L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui navigue un peu, beaucoup, pas du tout. Les pêcheurs, évidemment, en Bretagne, c'est un sujet pas facile à traiter d'ailleurs. On essaie bien d'en inviter dans LEM, mais le midi, ils sont en mer. Ceci dit, il en est dont on parle moins. Ce sont les femmes qui partagent la vie d'un marin pêcheur. Et ces femmes, Danielle Tefani s'y est intéressée. Elle était formatrice, mais elle a étudié pendant 2 ans la sociologie. Elle vit en partie à Nantes et en partie en presqu'île de Crozon, d'où elle est originaire. C'est là qu'on l'a rencontrée, car Danielle Tefani a eu l'idée de rencontrer elle-même les femmes de pêcheurs, comme on dit en raccourci. Elle a même publié récemment la version papier de son enquête, qui a pour titre « Femmes de marins pêcheurs en Bretagne ».
Alors, j'ai grandi dans les années 60 à Camaret. Et dans une famille de pêcheurs, enfin, mon père était marin pêcheur à la langouste. C'était les années fastes du port de Camaret et de la pêche à la langouste. Et bon, même si dans les années 70 tout ça s'est terminé et aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de pêcheurs, mais il y en a quand même quelques-uns encore à Camaret. Et donc ma mère partageait la vie d'un marin pêcheur qui partait longtemps, hein, qui partait 2 mois, 3 mois, et qui est même parti 6 mois au Brésil, pêcher aussi. Et ma grand-mère était aussi femme de marin pêcheur. Donc voilà, l'univers de la pêche a toujours été sensible, la question des femmes aussi, les histoires de vie, donc voilà.
Donc là, c'était votre première enquête, vous en envisagez d'autres après ?
Non, pas vraiment, non. C'est une expérience qui restera sans doute la seule, hein, parce que j'avais vu l'exposition des Monts d'Arrée là, sur les femmes en milieu rural, et ça m'avait bien plu. Et c'est vrai que je me disais, on parle quand même assez facilement des femmes agricultrices ou en milieu rural, mais il n'y a pas grand-chose sur les femmes dans le domaine maritime, enfin les femmes de pêcheurs. Or, pour avoir vu ça de l'intérieur, je me dis que les hommes ne pourraient pas exercer ces métiers-là aussi facilement si les femmes n'assuraient pas quand même toute la vie domestique, la vie avec les enfants. Je pense que c'est un peu une constante.
Ouais, c'est pas n'importe quel métier, c'est ce qu'on va voir. Mais...
Oui, oui.
Alors donc comment vous avez procédé ? Parce qu'au départ, vous ne visiez que Camaret ou les environs, puis en fait ça s'est un peu élargi à votre corps défendant.
Oui. C'est-à-dire que j'ai... Camaret, ça a été assez facile pour moi de trouver des personnes à interroger, même si je ne connaissais pas les jeunes femmes. Parce que c'est ça aussi, j'avais envie d'aller voir les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes. Parce qu'on parle aussi souvent de la pêche ou des femmes de pêcheurs avec l'image des femmes en noir qui attendent le retour. Alors même 6 mois dans mon enfance, je n'ai jamais connu ça vraiment non plus. Je me disais, ça serait bien quand même de voir les jeunes femmes d'aujourd'hui, celles qui ont une activité professionnelle. Et donc à Camaret, ça a quand même été facile parce que même si moi, je ne connaissais pas directement, on m'a recommandé certaines personnes. Il doit rester 2 ou 3 pêcheurs à Camaret. Donc j'ai rencontré leurs femmes. J'ai interrogé ma mère, mes enfants avaient une amie d'une vingtaine d'années, dont le compagnon est marin-pêcheur, donc je l'ai rencontré aussi. Donc ici, ça a été assez facile. Et après, j'ai fouillé un peu les archives de la presse, le Télégramme, Ouest-France, Le Marin, pour voir... Parce qu'il y a des femmes qui ont été assez actives dans le militantisme ou qui ont aidé le monde de la pêche dans les années 90 plutôt. Et puis sinon par Facebook, sur le site par exemple Les Bretons et la mer, j'ai mis une petite annonce. Il y a aussi des femmes qui m'ont répondu. Et puis j'ai aussi sollicité quand je ne connaissais pas, les lieux, les comités locaux de pêche qui m'ont donné des coordonnées. Donc, alors c'est vrai que le biais, c'est que les gens que j'ai rencontrés étaient toutes partantes. C'était des femmes qui étaient partantes pour témoigner.
Ouais. Donc, ce que vous avez fait, c'est pas une enquête sociologique proprement dite, mais voilà, une série de portraits.
Quoi. Voilà, il n'y avait pas le souci de représentativité comme on peut avoir quand on fait une enquête sociologique, par exemple. Là, c'était un peu libre. Bon, je m'étais dit une vingtaine, entre 20 et 30. Bon, 22, avec les déplacements et tout ça, c'était quand même... Enfin, pour moi, c'était suffisant. Et comme je faisais ça en marge de mon activité professionnelle, bon, ça prend du temps. Hein, donc,
ouais, il fallait que ça soit sur toute la région, parce que la région Bretagne vous subventionnait un peu.
Voilà. Parce que c'est vrai que je me disais, si ce sujet n'intéresse que moi, pourquoi me mettre à faire ce genre d'enquête? Et j'ai soumis l'idée au conseil régional, au département qui s'occupe de la mer. Il y a un autre service aussi, égalité hommes-femmes. Et puis ça a un peu circulé au conseil régional. Et puis j'ai eu une subvention pour au moins pour les frais de déplacement, quoi. Parce que je me disais, bon, ça, c'est aussi la preuve que ça a un intérêt au-delà de ce que ma propre curiosité. Et c'est vrai que la contrepartie, c'était que j'aille rencontrer des femmes dans les différents départements bretons.
Et ça vous a pris combien de temps en tout, ce travail, vous diriez ?
Ben, 2 ans et demi. Et puis c'est vrai que là, parce que donc les entretiens, bon, il a fallu que je me déplace, les retranscriptions, faire les portraits. Et puis c'est vrai qu'après, pour la publication, alors l'édition, là, c'est quand même compliqué aujourd'hui, hein, le monde de l'édition. Donc finalement, on a fait le choix de les imprimer. Les imprimer, parce que en plus, c'était au moment du Covid. Et enfin bref. Donc là, on a perdu presque une année, hein, enfin 8 mois peut-être. Mais disons que j'ai mis 2 ans et demi, je pense, à faire tout ça, oui.
Chaque entretien, donc vous me disiez environ 2 heures, comment vous procédiez? Vous faisiez toujours le même type de questions?
Oui, alors j'avais un guide d'entretien avec des thématiques que je souhaitais aborder, donc le parcours des femmes, de leurs conjoints pêcheurs, est-ce qu'ils étaient eux-mêmes d'un milieu de la pêche ou pas, est-ce que c'était une reconversion professionnelle, est-ce que les femmes partageaient l'activité de pêche de leur mari ou pas. Et puis la peur, l'absence, vous voyez, toute une liste de thèmes comme ça que je souhaitais aborder, la communauté, le militantisme, voilà.
Dans votre panel de portraits, donc vous disiez que vous cherchiez des jeunes, mais en fait, il n'y a pas que des jeunes. Hein. Enfin, faut dire que c'est quand même finalement assez, assez vaste, hein, les tranches d'âge.
Oui, surtout des femmes en activité, parce que je pense quand même que plus des trois quarts sont encore en activité, donc partagent ou non l'activité de pêche de leur conjoint.
Et sinon, ça va de 26 à 80 ans à peu près,
oui,
c'est ça?
Oui, oui. Il y a 2 personnes de plus de 80 ans. Oui.
Et vous, vos impressions à l'issue de tout ce travail, quelles ont été ces impressions? Est-ce que vous étiez surprise ou pas tant que ça?
Alors, disons que il y a des constantes, je trouve, des constantes, parce que c'est vrai que j'ai toujours rencontré des femmes engagées. Engagés auprès de enfin dans leur couple ou dans leur vie familiale. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que quand même c'est une activité qui n'est possible que dans un couple, quand la femme est présente et assure la partie domestique, l'éducation des enfants. Non pas que les hommes s'en désintéressent, mais s'ils font la pêche côtière, par exemple, bah, ils partent quelquefois à 2-3 heures du matin, ils rentrent le soir. C'est quand même difficile d'être, d'être très présent. En plus, il y a les aléas de la météo, il y a aussi des périodes où ils travaillent beaucoup. Après, les hommes qui partent en pêche hauturière, qui partent pour longtemps... c'est difficile, hein, avec de la bonne volonté.
Oui, c'est ça, parce que peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu maritime, quels sont les types de pêche qui sont présentés dans vos entretiens? Il y en a 4 ou 5, je crois, non?
Il y a des hommes qui font la pêche côtière, c'est-à-dire qu'ils partent le matin, ils rentrent le soir. Il y a du chalut aussi, le chalut en Manche, par exemple, ou en mer d'Irlande. Donc là, c'est plus des bateaux qui partent pour une semaine ou 15 jours, une semaine à terre ou 2-3 jours à terre. Du côté de Douarnenez, c'est ça aussi un peu. L'Orient. Et puis sinon, il y a quand même des bateaux qui partent plus longtemps dans le golfe de Gascogne ou oui, en Irlande, par exemple. Ils partent 15 jours, 3 semaines. Et puis, il y a aussi la pêche en mer du Nord. J'ai rencontré des femmes dont les maris travaillent sur les bateaux-usines en mer du Nord. Donc là, c'est un mois et demi d'absence pour une dizaine de jours à la maison. Il y a aussi la pêche au thon au large des côtes d'Afrique. Donc là, c'est plus... en général, c'est 8 semaines à terre et 8 semaines en mer. Donc voilà, ça donne des rythmes différents et des impacts sur la vie familiale qui sont différents aussi, quoi.
Ce qu'on peut dire quand même, une des constantes justement, enfin, qui m'a frappée, moi, c'est qu'elles sont vraiment indépendantes. Alors, soit elles sont carrément indépendantes du milieu, qu'elles ont un travail complètement différent, elles habitent même bien dans l'intérieur des terres, soit, en tout cas, elles sont indépendantes d'esprit, ça c'est sûr.
Oui. Ben, c'est-à-dire, j'ai rencontré des femmes qui disent... Ben lui, il est pêcheur, c'est son activité, c'est son métier, et puis moi, c'est autre chose. Chacun sa vie, voilà, enfin sa vie professionnelle, et puis et ce que vous dites aussi sur le fait d'habiter les terres, par exemple, où j'avais pas pensé à ça avant de rencontrer certaines femmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le littoral est très peu abordable hein, pour des jeunes couples. Et c'est vrai que j'ai découvert aussi qu'il n'y avait plus les communautés de pêcheurs, par exemple, sur l'Orient, ou comme ici avant, sur Camaret, où les gens... si les femmes travaillent, par exemple, si le mari travaille à Douarnenez, la femme peut travailler à Quimper, par exemple. Donc voilà, ils habitent à mi-chemin. Mais c'est aussi parce que l'habitat sur le littoral est très peu accessible aujourd'hui, hein, et très cher. Donc il y a des matelots, par exemple, qui habitent à 25 km des côtes ou 30 km.
Et puis de toute façon, si le mari, par exemple, travaille pour le thon, il va travailler en Afrique. Donc là, finalement, le domicile, il peut être n'importe où.
Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc là, effectivement, ça n'a pas d'importance.
Hein. Oui, il y en a qui habitent à, je ne sais plus, alors il y a Rennes, il y a Nantes, ouais. Et puis alors, certaines sont vraiment de milieux. Elles, enfin là, on parle des femmes, mais elles viennent vraiment, il y en a une qui est parisienne, une qui est toulousaine, elles viennent vraiment de milieux très, très éloignés de la pêche.
Oui.
C'est un effet générationnel peut-être, non?
Non, pas forcément, non. Parce qu'il y a une des femmes, là, justement, qui a beaucoup œuvré pour le milieu de la pêche, qui est parisienne, et qui est venue là un peu par hasard. Son mari n'était même pas marin-pêcheur quand elle l'a rencontré. Et pourtant, elle fait partie des femmes qui ont, beaucoup œuvré pour le monde de la pêche.
Alors vous expliquez dans votre recrutement que vous aviez quand même ciblé des femmes assez impliquées dans leur couple. Et du coup, en fait, il y en a beaucoup, une majorité d'ailleurs, je dirais, qui sont impliquées aussi dans le milieu professionnel de leur mari à différents degrés. Quels sont les degrés d'implication de ces femmes?
Les femmes qui partagent l'activité professionnelle, je pense par exemple aux femmes du côté d'Erquy, là, dans les côtes d'Armor. Il y a des femmes qui vont vendre la pêche de leur conjoint sur les marchés ou qui veulent développer la commercialisation parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein, sinon... ou alors tout est vendu à la criée et il y a peut-être une autre manière de valoriser la pêche, quoi, de...
Et puis, il y a celles qui sont impliquées dans les instances représentatives.
Oui. Dans les comités locaux des pêches. Oui, c'est vrai que Il y a différents cas de figure. C'est vrai que... Et là, je pense qu'il y a peut-être un effet générationnel, mais pas que, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes femmes qui sont très impliquées avec leurs conjoints, dans leur activité, et d'autres, non. Enfin, qui...
Tout dépend aussi si le conjoint est patron pêcheur ou s'il est juste employé sur un gros tonnier.
Oui, 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 oui.
Et alors, il y en a même qui ont fait la même formation que leur mari, mais qui ont été pêcheuses elles-mêmes. Enfin, je ne sais pas comment on dit.
Oui, oui, oui. Oui. Et 10 pêcheurs. Alors, je ne sais pas. Ça changera peut-être. Mais ça aussi, c'est intéressant parce que des jeunes femmes, deux jeunes femmes là, que j'ai rencontrées, qui ont fait des études à Etel, là, au lycée maritime, et puis... Qui font la pêche.
Alors, Laureline, elle a pêché avec son mari.
Oui.
Et il y a Anne, elle va carrément avoir son propre bateau.
Son propre bateau, oui, oui, oui. Je pense que c'est quand même assez nouveau. Et puis, dans le cas de Laureline, par exemple, mais elle n'est pas la seule, il y a aussi une autre... Il y a aussi une autre femme...
Il y a Christelle qui a été matelote.
Qui a été matelote et qui développe aussi des formes d'AMAP, enfin l'équivalent des AMAP avec le produit de la pêche, quoi.
De la distribution en circuit court, quoi.
Voilà, voilà.
Des paniers de la mer, en fait.
Oui, oui.
Et il y a même Tiffaine qui dirige carrément l'armement. Elle dirige son mari, en fait.
Ben oui, oui. Alors, elle dit, bon, tout ce qui se passe en mer, c'est lui, et tout ce qui se passe à terre, c'est moi. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, les rôles, là, sont bien partagés.
Et on comprend, d'ailleurs, elles disent bien que c'est un métier passion pour leur mari, puis pour elles souvent aussi. Oui. Et est-ce que pour les maris, quand même, il y a aussi une chose qui m'a frappée, c'est qu'ils ne sont pas tous marins-pêcheurs de père en fils, enfin loin de là, en fait.
Non, certains sont venus... alors souvent, par, quand même beaucoup ont évolué soit en bord de mer, enfin sur le littoral ou dans des familles de pêcheurs, mais d'autres pas du tout. Et je pense que c'est l'appel du large ou le grand air, tout ce qu'on associe aussi à la mer, la liberté des métiers. Alors là, je pense qu'il faut les vivre pour comprendre, mais cette passion pour la mer et pour le métier qui est quand même un métier difficile.
J'ai envie de dire, ça ne transparaît pas tellement dans les entretiens, la difficulté ou la peur qu'elles peuvent avoir, elles, du naufrage. Enfin, il n'y en a quasiment aucune qui l'exprime.
Non, non. C'est vrai qu'elles disent souvent, on ne peut pas vivre avec la peur, quoi. C'est... Alors, de temps en temps, j'imagine que certaines disent que de temps en temps, ça les taraude un peu, mais non, elles ne vivent pas avec ça, quoi. Et la difficulté du métier, je pense que c'est un tout, quoi, ce métier-là. On y va, bon, la contrepartie, c'est qu'il ne faut pas compter ses heures. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai été surprise parce qu'aujourd'hui, contrairement à... il y a quand même quelques années ou quelques dizaines d'années, je pense qu'on vit plutôt bien de la pêche.
Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème d'argent, hein. Ça fait un très peu.
Les problèmes dont j'ai entendu parler de façon récurrente, c'est le recrutement de marins. C'est très difficile de former les équipages, de trouver un équipage stable, des gens qui restent à bord, et ça c'est un problème. Mais après, c'est vrai que pour la vie est quand même... financièrement, je pense que les pêcheurs s'en tirent bien au vu d'autres métiers un peu comparables en termes d'études. Mais après, certaines femmes me disaient aussi, alors c'est plus quand même les femmes de matelots, qui disent que si on rapporte le nombre d'heures passées sur le bateau et à travailler, en fait, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça fait quand même des bons salaires à la fin du mois, quoi.
Alors, le livre s'appelle « Les femmes de marins pêcheurs », parce qu'en fait, c'est une communauté de langage, on le sait bien. Oui. Mais à part une ou deux qui sont les plus âgées, d'ailleurs, « femmes d'eux », ça les chiffonne. Enfin, elles se reconnaissent pas trop dans le côté « femmes d'eux ». C'est plutôt « je vis avec un marin pêcheur ».
Oui, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un effet générationnel autour de cette question-là. Et moi-même, enfin, je m'en doutais, mais je trouvais intéressant de partir avec cette idée de femme de marin-pêcheur, parce que je pense qu'il y a peut-être aussi un... Moi, je savais, par exemple, que ma mère, que j'ai interrogée dans le livre, là, enfin, pour le livre, quand elle disait « femme de marin-pêcheur », oui, non, je suis fière, c'est parce que derrière ce terme-là, il y a toute l'implication et tout ce que ça représente. Alors qu'aujourd'hui, on n'entend plus ça comme « femme de ». Non, je ne pense pas qu'on se définisse aujourd'hui comme par rapport au statut, au métier de son conjoint. Il y a quand même, enfin la société, le monde a changé, les femmes travaillent, enfin c'est beaucoup de choses ont changé et effectivement ça c'est une expression, on voit bien quand même que les femmes plus âgées se reconnaissent dans cette expression, mais les femmes plus jeunes pas du tout quoi.
Et même d'ailleurs, les femmes plus jeunes qui s'impliquent trouvent que, enfin, déplorent leur invisibilité, l'invisibilité des conjointes qui s'impliquent dans l'entreprise de pêche.
Oui, oui, oui. Parce qu'elles le disent, certaines le disent quand il y a des réunions amicales ou familiales. Alors tout le monde va. Le pêcheur, il est très sollicité, quoi, sur son travail, sur la mer, comment vous faites, c'est tellement dur. Et en fait, quand même, beaucoup déplorent l'invisibilité de tout le travail qu'assure quand même la femme à la maison pendant que l'homme est en mer, quoi. Alors, il n'y a pas la même... c'est pas au même niveau, quoi, mais j'ai senti quand même souvent un manque de reconnaissance. Si on reconnaît, c'est vrai que lié enfin, au métier de marin-pêcheur, il y a le courage. Ce sont des hommes voilà, qui n'ont pas peur du travail, qui sont courageux. Mais à côté, on ne voit pas tout ce que les femmes font, parce que oui, c'est plus invisible, quoi.
Et pour autant, je trouve que, enfin, celles qui en parlent en tout cas assez ouvertement de leur mari ou de leur mari domestique, ce sont pas des machos. Enfin, ils participent, ils mettent la main à la pâte à la maison.
Oui, 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 oui.
C'est des nouveaux pères même.
Oui, 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 oui. Quand ils sont là, ils participent. Et d'ailleurs, certaines qui vivent assez mal le métier de leur conjoint disent « Ah là là, s'ils pouvaient être tout le temps à la maison, il fait tout à la maison. » Mais moi, je me souviens, mon père, par exemple, aussi, faisait la cuisine, faisait le ménage. Mais je pense que sur les bateaux, ils sont peut-être habitués à participer, à mettre la main à la pâte. Et j'ai été surprise aussi, parce que si on prend les deux jeunes femmes qui font la pêche, elles disent qu'elles n'ont pas rencontré un monde de machos, parce que je me disais, c'est vrai, des jeunes femmes qui arrivent dans ces milieux, alors auxquels collent aussi hein, des stéréotypes et des préjugés, en fait. Eh ben non, elles disent toutes qu'elles ont été bien accueillies, que les marins sont adorables. Donc voilà, c'est peut-être aussi... peut-être qu'il faudrait se pencher un peu plus aussi sur ces hommes qui font ces métiers, enfin, en dehors de leur métier, comment eux aussi vivent tout ça, parce que je pense que ça ne doit pas être simple.
Il y en a tout de même qui s'interrogent. Il y a Bérénice qui s'interroge sur la parentalité. Enfin, je ne sais plus ce que fait son mari, mais le fait que le lien avec les enfants n'est peut-être pas aussi simple quand on est loin.
Non, par exemple, son mari part longtemps et elle disait... C'est difficile quand même de... La relation n'est pas simple parce que, voilà, ils sont peu présents. Il y a d'autres femmes aussi qui m'ont dit, et ça ne m'étonne pas, que ce qu'elles trouvaient difficile, notamment autour de la question des enfants, c'est de partager certaines difficultés. Enfin, souvent, elles disaient, bon non, je lui parle pas de ça parce qu'il est là peu de temps, on va pas gâcher les moments qu'on a ensemble. Donc je pense que aussi, ça... C'est une difficulté pour que les pères aient une relation équivalente à celle d'hommes qui font un autre métier, par exemple, surtout au moment de l'adolescence, où je pense que ça ne doit pas être simple.
Et puis en plus, même au XXIe siècle, la communication n'a pas toujours l'air très facile. Quand le mari est à bord d'un bateau, ça coûte cher, la communication satellite, enfin, ce n'est pas si simple, en fait.
Non, ce n'est pas si simple. Alors, c'est vrai que pour les gens qui sortent à la journée, il y a le portable quand ils ne sont pas trop loin des côtes. Mais après, pour les gens qui font, les pêcheurs qui font le chalut là en Manche, il faut passer par le satellite, ça coûte très cher. Et après, c'est plus facile peut-être pour les bateaux qui sont en mer du Nord ou en Afrique, parce que là, ça passe. Enfin, il y a l'internet et il y a des communications qui sont plus simples. Mais c'est vrai qu'il y a. J'ai été surprise aussi de voir que la communication n'est pas simple. Et au-delà de la communication, il y a aussi quelqu'un là qui parlait bien des difficultés de communication autour de. Elle disait quand on peut pas partager sur le moment, c'est difficile de. On va pas les encombrer avec ça, eux qui sont loin, qui travaillent beaucoup. Donc après, quand ils reviennent, bah c'est passé ou c'est. Donc on revient pas là-dessus, quoi. Donc je pense que dans les couples le. C'est pas toujours facile de communiquer.
Et encore là, je pense que c'est pareil, c'est le hasard ou le ciblage, mais c'est quand même des couples super solides, enfin, qui s'aiment vraiment, on a l'impression. Enfin, il n'y a aucun couple où c'est soit un mariage de raison.
Oui, mais là aussi, bon, c'est vrai que le biais, encore, une fois encore, je pense, c'est des femmes qui étaient vraiment partantes pour témoigner. Donc, je pense que peut-être. Ça n'est peut-être pas généralisable, hein, ce genre de. Mais je pense aussi que dans ces métiers qui sont difficiles, ça peut tenir quand. Enfin, les couples tiennent quand il y a de la confiance, la solidarité. Et c'est vrai que là, les femmes que j'ai rencontrées partageaient toutes ce genre de choses avec leur conjoint.
Et malgré leur indépendance, aucune, ou presque, ne s'interroge sur le jour où le mari sera en retraite, où ça s'arrêtera, où ils vivront ensemble plus longtemps.
Alors certaines disent on s'est déjà adapté à tellement de choses qu'on s'adaptera. Mais moi, je pense que ça n'est pas simple, quand même. Ça n'est pas toujours simple, hein, parce qu'il faut que chacun trouve sa place et... Les hommes ne sont pas toujours très attendus non plus. Donc voilà, c'est pas toujours simple.
Pour lire l'enquête de Danielle Téfani, femme de marin-pêcheur en Bretagne, en collaboration avec Jacques Guyot, vous allez sur le site internet d'Histoire d'ici et d'ailleurs, qui est signalé sur le site de Radio Évasion.